session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe le 6 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
Essayer de comprendre un peu pour mieux saisir la place de la philosophie, de voir la différence qui existe entre le point de vue philosophique et le point de vue théologique. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Parce que beaucoup de théologiens ne font plus de la théologie et font de la philosophie. Et ça arrive, alors ça, moins souvent, que les philosophes fassent de la théologie. Ça arrive moins souvent. C'est plutôt de l'histoire, c'est plutôt de la critique, c'est plutôt de la rhétorique. La philosophie, si elle va jusqu'au bout de ses exigences, est une sagesse au service de l'homme. Puisque la philosophie s'intéresse en premier lieu à l'homme. Elle est une anthropologie, puisque c'est le terme qu'on dit aujourd'hui. N'oubliez pas que le terme anthropologie, c'est Kant qui l'a employé le premier. Donc ça a toujours une petite saveur kantienne. Le mot anthropologie, c'est Kant. Il l'a employé parce que pour lui, il n'y avait pas de métaphysique. Donc il n'y avait plus que l'anthropologie. Oui, anthropos logos. Le logos sur l'homme, c'est ça l'anthropologie. Il est évident que le philosophe s'intéresse à l'homme. Le mathématicien ne s'intéresse pas à l'homme. Le savant biologiste s'intéresse à l'homme, mais pas directement. C'est la biologie qui regarde. Alors, comme la biologie, elle est présente. présente dans les entrailles de l'homme, ben il faut qu'il s'intéresse à l'homme, pas à la biologie, c'est sûr. L'homme est un animal qui mange. C'est pas le propre de l'homme. Il y a beaucoup d'autres animaux qui mangent. J'allais dire tous les animaux mangent. Et parmi ces animaux, l'homme mange. C'est sûr. L'homme meurt. Tous les animaux meurent. Ils ont un rythme différent de vie. Mais ils meurent tous. Les autres animaux naissent. Et l'homme naît. Et il y a des parallélismes très intéressants du reste à faire, au point de vue biologique. Mais ce qui montre bien que la biologie prend l'aspect générique de l'homme, pas l'aspect propre de l'homme, la personne. Un cheval n'est pas une personne, si noble que soit cet animal. Un hippopotame non plus. Je dis moins noble. Bien que... Oui, parce que il vit dans l'eau, tandis que le cheval vit dans l'air. C'est plus noble. Donc, il a une noblesse particulière, le cheval. Mais c'est pas une personne. Ça, c'est ce qui intéresse le philosophe. Le philosophe s'intéresse à l'homme comme personne. Et toute la philosophie s'intéresse à l'homme comme personne. Et pour chercher la fin propre de l'homme, la philosophie, on le reverra ça, la philosophie va se terminer dans ce qu'on appelle la philosophie première, qu'on a appelée métaphysique. Le terme propre, c'est philosophie première. Métaphysique, ce sont les bibliothécaires qui ont appelé métaphysique, tout simplement parce que après les livres physiques, il y avait d'autres livres. Et comme les bibliothécaires n'avaient pas le temps de lire la philosophie première d'Aristote, ils ont simplement dit après la physique. Après la physique, il y a ces livres métaphysiques, après. Puis on a dit au-delà de la physique, je veux bien. Mais en réalité, le terme propre, c'est philosophie première. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait reprendre le terme philosophie première. Parce qu'il est beaucoup plus officiel. Mais quand on dit philosophie première, beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez, Husserl parle de philosophie première, pas métaphysique. Et Heidegger dit que la métaphysique est terminée et qu'il faut une ontologie fondamentale. Et pour lui, l'ontologie fondamentale, c'est la philosophie première. Mais il appelle l'ontologie fondamentale. Cette philosophie première se pose la question, existe-t-il un être premier ? Parce que mon expérience de l'homme, c'est la multiplicité. Je connais beaucoup d'hommes. Je connais une famille. Je connais beaucoup d'hommes. Y a-t-il une réalité au-delà de l'homme ? C'est la grande question philosophique. Si l'analyse philosophique de la philosophie première s'achève avec l'étude de la personne, c'est à partir de la personne que je me pose, existe-t-il un être premier qui soit esprit, qui soit intelligence, qui soit amour, qui soit une personne. Et en raison de la réponse que je donne à cette interrogation, existe-t-il un être supérieur à l'homme ? Que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas un mot inventé par la philosophie. Le mot Dieu est un mot inventé par les traditions religieuses. C'est très très important de se rappeler ça. Comme le mot inventé par les traditions religieuses. Le mot âme est inventé par les traditions. Il est manifesté, je ne dis pas inventé, manifesté par les traditions religieuses de l'Inde. Ne dites pas que la distinction de l'âme et du corps, comme des quantités de gens disent aujourd'hui, ça vient de la Grèce. C'est faux. Ça vient de l'Inde. C'est important de se rappeler ça. Parce que tout ce qui vient de l'Inde, on le salue. Oui, c'est vrai, ça. Il y a un culte de l'Inde extraordinaire. Alors quand vous dites ça, ils sont de la mais du gros, ça vient de l'Inde. Ah oui, très bien. C'est-à-dire quand vous dites que ça vient de la Grèce, on voit tout de suite Aristote. Oh non, fini, terminé. Il faut être sensible aux bêtises humaines. Alors, pas seulement à l'intelligence de l'homme, mais aussi aux bêtises, aux slogans comme ça, pour ne pas tomber dans le panneau. Le mot Dieu, toutes les traditions religieuses, le mot âme, presque toutes. C'est normal. Distinction de l'âme et du corps. C'est intéressant de voir ça. Alors, le philosophe ne se pose pas la question, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui a posé le premier cette distinction? C'est Descartes. Avant Descartes, on ne posait pas la question comme ça. Et c'est mal posé. C'est mal posé, parce que en réalité, le philosophe doit se poser la question, existe-t-il un être au-delà de l'homme? Il se posera ensuite, cet être correspond-il aux traditions religieuses qui appellent Dieu le Créateur? Vous voyez? Je ne découvre pas un être auquel je dis, c'est Dieu. Non. Je découvre un être qui est au-delà de toutes les personnes humaines, de toutes mes expériences. Et je dis, cet être ne peut être que le Dieu des traditions religieuses, le Dieu créateur. Et une fois que j'ai découvert l'existence de cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, j'entre en ce qu'on appelle la théologie naturelle. Et c'est la théologie naturelle qui est sagesse. Sagesse philosophique. Puisque la sagesse, c'est tout regarder sous la lumière de la cause première, la fin ultime. Il y a un regard propre à la sagesse. C'est lorsque j'atteins le terme, non pas le terme de mes recherches, parce que ça c'est infini, mais la réalité ultime, première. Et dans la lumière de cette réalité, je regarde toute chose. C'est ce qu'on appellera le chemin de sagesse. Donc vous voyez bien comment la philosophie devient sagesse. Comment l'analyse philosophique de l'homme et de ses diverses activités pose un problème radical. Existe-t-il un être au-delà de l'homme? Je n'ai aucune expérience des martiens au plan philosophique. Je ne peux pas faire la philosophie des martiens et des soucoupes volantes. Pas encore. Peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Je ne peux pas. Parce que on ne fait pas la philosophie des réalités possibles. On fait la réalité de l'expérience. Alors, je n'ai pas d'expérience du possible. Oui, j'ai une expérience intérieure du possible, mais pas une expérience au sens fort. Je fais la philosophie des réalités que j'expérimente. Donc, vous voyez bien, après toute la partie de l'analyse de la philosophie, j'aboutis à l'aspect de sagesse. La révélation qui appelle la foi. Ici, je prends la foi chrétienne. On pourrait parler de la foi musulmane, c'est sûr. On pourrait parler de diverses, la foi de Parménide, Pistis, la foi de Parménide, qui adhère à la révélation de la déesse. C'est vrai, c'est une philosophie qui part d'une révélation. Plotin, néoplatonicien du deuxième siècle après Jésus-Christ, considère que Platon, c'est une révélation. Tout le néoplatonisme repose sur la révélation faite à Platon. Le divin Platon. C'est comme ça que Plotin le considère. C'est intéressant de voir que ces philosophies sont au fond des théologies. Puisque ce sont des commentaires de Platon. Et ils sont des commentateurs de Platon. Ils commentent. C'est un genre philosophique que le commentaire. Et on fait l'exégèse, parce que l'exégèse est un commentaire, l'exégèse de Platon. Et on considère que Platon est divin. On ne peut pas s'opposer à Platon. C'est divin. Aristote, c'est le philosophe. C'est intéressant, du reste, de voir ça. Parce que c'est vrai que Platon commence toujours par une sorte d'inspiration. Comme Parménide, c'est une inspiration. Platon essaie de justifier sa position, mais en réalité, ça repose sur une inspiration. Aristote, l'expérience. Et ça, pour moi, c'est la vraie philosophie. Elle repose sur l'expérience. Tandis qu'au contraire, avec la foi dans la révélation, j'ai la sagesse qu'on appelle théologique, que saint Thomas appelle la doctrine sacrée, la doctrine sacra. Cette sagesse théologique repose sur la foi, qui adhère à la parole de Dieu et qui se sert de la philosophie. Cette sagesse théologique est donc une coopération de la foi surnaturelle, la foi divine du chrétien et de son intelligence humaine. C'est une coopération. C'est donc quelque chose de mixte. Une coopération très particulière. Le théologien se sert de la philosophie. Il n'en invente pas en tant que théologien. Il se sert de la philosophie qu'il juge la plus proche, la plus vraie, pour expliciter le mystère de la parole de Dieu. Alors, parmi les théologiens, il y en a un qui se sert d'une manière tout à fait particulière de la philosophie. C'est Thomas d'Aquin. À ce point de vue-là, c'est le théologien le plus spéculatif. C'est là où la philosophie, en tant que philosophie première, est la plus utilisée. Et je suis donc avec Thomas d'Aquin en face d'une sagesse théologique. Alors, vous voyez tout de suite la différence de la démarche philosophique et de la démarche théologique. Le philosophe part de l'homme. Le théologien part de Dieu. Ah, ça c'est capital, hein, de bien comprendre ça. Le philosophe part de l'homme, de l'expérience de l'homme. C'est pour ça que je crois que toute philosophie marxisme a eu cet avantage de nous réveiller là-dessus. Parce qu'il y avait la seule théologie du travail, elle datait d'Hésiode. Marx a eu le génie de comprendre qu'il y avait une philosophie qui manquait. Il le dit du reste, la philosophie du travail. Il dit cette parole, vous savez, les philosophes jusque-là, jusqu'à Marx, cherchent la vérité, mais ils n'ont pas modifié le monde. Il faut maintenant modifier le monde par le travail, par la praxis. C'est une philosophie du travail. Avec cette philosophie du travail de Marx, on a été obligé, pour lui répondre, de saisir qu'est-ce que c'est que le travail humain. Donc, la philosophie part de l'homme, le théologien part de la parole de Dieu. Donc, directement du mystère de Dieu, pas de l'expérience. Le philosophe cherche à analyser ce qu'est l'homme. Le théologien cherche comment pouvons-nous connaître Dieu. Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu ? Le philosophe recherche les pourquoi et le théologien cherche le comment du mystère de Dieu. Mais en très gros, c'est ça. C'est deux orientations très différentes. Puis alors, en dernier lieu, puisque la parole de Dieu conduit à l'amour, vous allez avoir la sagesse mystique qui est au terme. J'en parlerai ce soir. Maintenant, nous allons regarder dans Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que le théologien dit sur la vérité ? J'espère que vous allez comprendre. Et voyez, pour nous, c'est important parce que notre philosophie européenne commencé en Grèce. Elle s'est continuée avec les pères de l'Église et les théologiens. Et la pensée était une pensée de théologiens. Descartes a voulu libérer l'entendement du carcan théologique. Et la philosophie a pris, à partir de Descartes, un nouvel élan. Bon ou mauvais, je constate, au plan philosophique, un nouvel élan philosophique pour découvrir une certitude qui ne soit pas la certitude de foi, et qui soit la certitude humaine. Il y a eu alors, à partir de Descartes, comme une sorte, j'allais presque dire, comprenez bien, de rivalité constante entre philosophes et théologiens. On peut le dire, ça. Une rivalité constante. Des échanges et puis des rivalités. Et on peut dire qu'avec Vatican II, l'Église demande aux théologiens d'être attentifs à l'homme. C'est l'Église qui demande aux théologiens de laisser au philosophe sa place. Alors, ce n'est plus dans une attitude de rivalité qu'il faut regarder les philosophes, dans une attitude de reste, d'accueil. Que disent les philosophes ? Est-ce que ces philosophes disent quelque chose qui est selon le développement normal de l'homme, selon sa finalité propre, selon ce qui caractérise développement de son intelligence et de sa volonté. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des périodes distinctes, mais c'est assez net. Première période, les Grecs. Deuxième, l'absorption, on peut dire, de la philosophie par la théologie. Le théologien se sert des philosophes. Il y a très peu de philosophes à ce moment-là. C'est la vigueur de la foi chrétienne qui absorbe. Réaction, troisièmement, réaction de Descartes. Une réaction très forte. Libération de l'entendement pour découvrir la certitude. Puis quatrième position, concile de dernier, concile Vatican II, qui demande aux théologiens de regarder l'homme. Vous comprenez que si je regarde l'homme uniquement en théologien et que j'ai affaire à un homme qui n'a pas la foi, il n'y a pas de dialogue possible. Merleau-Ponty disait, il ne faut pas l'oublier, Merleau-Ponty disait, je n'aime pas de parler aux catholiques parce qu'ils savent. On voit bien ce qu'il veut dire. Ils affirment trop vite. Ils ne sont pas assez attentifs à l'homme. Et au développement proprement humain. Si je comprends bien le concile, c'est cela. Donc à partir du concile, les théologiens devraient faire beaucoup plus de philosophie. Ils en font moins, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce qu'ils devraient comprendre que de fait, pour pouvoir dialoguer avec les hommes, il faut la philosophie. Et une philosophie qui s'ouvre à l'homme, une philosophie qui accepte l'expérience de l'homme. Je me souviens d'une petite expérience que j'ai eue, ce qui m'a beaucoup intéressé. C'était un moment où j'allais régulièrement au foyer de charité de Poissy, où il y avait un groupe de messieurs très amis du père Hébrard, qui était père du foyer. Et on invitait comme ça, il y avait des amis qui venaient. Un beau jour est arrivé un savant, biologiste. Puis on se mettait à parler, à discuter ensemble. Puis qu'on a discuté pendant toute la journée, il m'a dit, mais c'est curieux qu'on arrive à se parler tout de suite, nous, au concile, parce qu'il était grand ami de Paul VI. Au concile, j'ai été invité. Il était le seul savant invité. J'ai essayé de dialoguer avec des théologiens. C'était impossible. Ah, je dis, c'est pas étonnant. Ils sont pas assez philosophes. C'est vrai, un théologien qui n'est que théologien, tout de suite affirme la foi. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord, je suis pas contre. Mais qu'il le fasse avec les croyants. Et quand il est en face de quelqu'un qui ne croit pas, et qu'il essaie de l'écouter dans sa recherche philosophique. Et c'est ce que Vatican II demande. Et ça, c'est très beau, parce que c'est exiger le théologien, le chrétien intelligent, d'être intelligent pour ses confrères, de les écouter, de comprendre où ils sont dans leur recherche, et pas tout de suite asséné, vous êtes un hérétique. Mais quoi, ça lui est bien égal, hein. Il ne croit pas, donc c'est un hérétique. C'est tout à fait inutile. Ça ne sert à rien. Tandis que si on est, quel est votre cheminement? Où est-ce que vous en êtes dans votre recherche? Dans votre recherche de la vérité? Alors là, c'est intéressant. Parce qu'on a tous un cheminement humain. Même si on est croyant. Parce qu'il y a des moments où il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des moments où on dit, ah, la science, m'engage dans un domaine où la foi chrétienne sera en contradiction. Peut-il y avoir une contradiction entre la foi chrétienne et les conclusions scientifiques? Souvenez la lecture de midi du père Daniel Lou. Il montre que la recherche scientifique prise pour elle-même, ne peut jamais être en contradiction avec la foi. Mais dans les applications, dans l'usage de la technique, c'est différent. Donc quand l'Église sauvegarder la foi, dit aux chrétiens, attention, c'est toujours dans l'application, c'est dans l'usage, l'usage humain que vous faites de certaines conclusions scientifiques. Ce n'est pas le contenu scientifique. Le contenu scientifique, de la science scientifique, lui ne peut pas être en contradiction avec la foi. Et vous êtes aussi de temps en temps en face de chrétiens qui font un blocage terrible entre tradition religieuse et foi chrétienne. C'est pas la même chose. Il y a des traditions familiales, il y a des traditions politiques. C'est autre chose que la foi. Et ne faisons surtout pas de blocage. Et pour ça, il faut avoir réfléchi un peu au plan philosophique. Donc, voyez bien, c'est quand même très important de bien comprendre que le théologien, un grand théologien comme saint Thomas, s'intéresse à la philosophie. Mais il ne fait pas œuvre de philosophe. Et ça a été, on peut dire, la grande confusion qui a existé au XVe siècle avec un théologien, Suarez, qui a voulu, avec d'excellentes intentions, sauver la pensée de saint Thomas, la philosophie de saint Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrait de la somme théologique de saint Thomas. Il faudrait que je vous l'amène. Je vous l'amènerai en petit fascicule, comme ça sera long comme ça. Extraire de la somme théologique de saint Thomas une philosophie. Alors voyez l'erreur. Si la philosophie est sagesse, elle a un ordre qui lui est propre. Elle a un cheminement qui lui est propre. Si la théologie est sagesse, la théologie a un ordre qui lui est propre, un cheminement qui lui est propre. Extraire la philosophie de saint Thomas de sa théologie, c'est vouloir prendre des éléments d'une pensée théologique et les ajuster les uns à côté des autres, selon un ordre factice. C'est ce qu'on a appelé la philosophie thomiste scolastique, décadente, ce que j'appelle décadente, parce que c'est plus de la philosophie. Vous voyez, c'est une apologétique, une défense d'une philosophie réaliste qu'on découvre à travers une théologie. Le théologien a son ordre propre et non pas l'ordre philosophique. Et donc, quand il assume une philosophie, il la digère. C'est un bois. Il l'a dit. Théologique. Mais on ne sait plus quel est l'ordre propre de découverte de la philosophie. Alors on vous donne des définitions toutes faites. Et on vous dit c'est ça, la philosophie thomiste. Alors que ce n'est pas ça du tout. Puisque pour saint Thomas, l'autorité est la dernière des raisons. Alors, nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour Thomas d'Aquin? Ça fait partie de la topique. C'est un lieu important. Thomas d'Aquin a beaucoup réfléchi sur la vérité. Et vous comprenez pourquoi. La devise des dominicains, c'est Veritas. Quand j'étais jeune, je mettais Veritas in vino. Tandis qu'au contraire, quand je suis passé chez les dominicains, j'ai mis autrement. Vous voyez bien, c'est, on peut trouver sa vérité là où on peut. Il y en a qui la trouvent dans le vin, parce que c'est vrai, ça éveille. Il y en a qui la trouvent dans la drogue. Veritas inimaginatione, dans l'imagination. D'autres qui la trouvent dans l'inconscient des rêves. C'est la vérité dans l'inconscient des rêves. C'est très curieux. Il y a une certaine vérité. On verra tout ça. À partir de Veritas in vino, parce que c'est quand même important de voir ça. Il y a diverses vérités. Alors, saint Thomas, dominicain, entrant au début de l'ordre, malgré la fureur de ses parents. Ses parents voulaient que Thomas entre chez les bénédictins pour être un abbé avec des propriétés, avoir une mitre, une crosse, et puis être un grand abbé. Et voilà que Thomas d'Aquin frappe à la porte de cette jeune congrégation qui commence. Toute jeune congrégation, les dominicains, des frères mendiants. Plus de mitre, plus de crosse, plus d'abbaye, plus de propriété, des mendiants. Et qui vivront comme des mendiants. Et à frapper à la porte de cet ordre. Qu'est-ce qui deviendrait? On n'en savait rien. T'es tout jeune. Alors, les parents, qui avaient le souci d'avenir de leur fils, et qui voulaient que leur fils fasse carrière en bon parent, ce qui est normal, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Donc, on a mis un obstacle. On a essayé de mettre un obstacle par tous les moyens. Alors, si je ne veux pas raconter tous les obstacles, parce que ça vous donnerait des idées. Alors, c'est pas la même. On a mis toute une série d'obstacles pour l'empêcher d'entrer dans l'ordre. Et saint Thomas, malgré ça, est entré. Et il a été quelqu'un qui, pendant toute sa vie, a cherché la vérité. C'est un chercheur de vérité, Thomas d'Aquin. Et un chercheur de vérité de façon étonnante de son temps. On enseignait la théologie en se servant d'Avicenne. Avicenne est un théologien du 9e siècle, 8e, 9e siècle, espagnol. Musulman. Et Avicenne avait fait l'ancienneté, l'autorité philosophique de Maître Albert. Albert de Cologne. Saint Albert le Grand. Et Albert le Grand avait fait toute sa théologie en se servant d'Avicenne au plan philosophique. Saint Thomas a eu ce coup de génie de comprendre qu'il ne pouvait pas, parce que la philosophie d'Avicenne était trop éclectique, un mélange, pas assez pur. Il a demandé qu'on lui traduise Aristote directement, sans passer par le néoplatonisme. Et c'est ce qui fait que la Sorbonne a condamné Thomas d'Aquin. Il ne faut pas l'oublier. La Sorbonne a condamné Thomas d'Aquin. La Sorbonne, de ce temps, a voulu être plus catholique que Thomas d'Aquin. On dirait aujourd'hui plus intégriste. Restant dans la tradition. Absolument, la tradition. Et Thomas d'Aquin, innové. Alors, on a attaqué Thomas d'Aquin. Et on l'a attaqué de cette manière, en disant qu'il avait quitté Avicenne, qui était un croyant, pour Aristote, qui était un païen. Et la Sorbonne n'a pas voulu accepter qu'on puisse se mettre disciple d'un païen, si on est chrétien. Et Thomas d'Aquin s'est mis disciple du païen, parce qu'il cherchait la vérité. C'est merveilleux, ça. Parce que ça montre la liberté de Thomas d'Aquin, qui recherchait la vérité et qui voulait atteindre la vérité. C'est ça qui l'intéressait. La vérité n'est pas dans une secte. La vérité nous ouvre de plus en plus à la recherche de tous ceux qui découvrent la vérité. Mais ça exige un approfondissement énorme. Alors Thomas d'Aquin s'est mis à l'école d'Aristote. Il a commenté les traductions d'Aristote de grec en latin. Il les a commentées soigneusement jusqu'à la fin de sa vie. Il les a commentées aussi pour la Sorbonne. La Sorbonne a utilisé ses commentaires, mais après a été contre lui et l'a condamné. Pas explicitement, mais implicitement. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de successeur direct de Thomas d'Aquin. Parce qu'on avait peur. Ce n'est qu'après, quand il y a eu la réhabilitation, qu'on a compris que c'était faux. Thomas s'était mis à l'école, non pas du païen comme païen, il s'était mis à l'école de l'homme, philosophe, cherchant la vérité. Alors, il y a une question très importante. On n'a pas beaucoup de temps, parce que ça mettrait tout longtemps pour voir ça. Il y a une question très importante dans ce qu'on appelle les questions disputées. Les questions disputées, comme l'on l'indique, c'est des questions disputées. Qu'on traite en séminaire, voyez, une grande question disputée. Et la première question disputée, c'est De Veritate. Et tout le livre des questions disputées ont pris ce titre du De Veritate. Les autres, il y a la première question du De Veritate qui est sur le De Veritate. Les autres sont sur d'autres sujets. Voyez, vous pouvez trouver les différents sujets traités par saint Thomas. La seconde question, c'est la science de Dieu. La troisième, les idées de Dieu. La troisième, la quatrième, le Verbe. La cinquième, la providence. Sixième, prédestination. Septième, le livre de vie. Huitième, la connaissance. très intéressant parce que c'est très pensé. Alors je vais vous donner tout simplement, vous allez tout de suite voir combien c'est analytique. Premier article, donc il y a une question qui forme l'unité, comme les vitraux de Chartres. Et puis, il y a des articles. Vous savez, quand vous regardez les vitraux de Chartres, c'est très analysé. Il y a un vitrail, puis des quantités, puis des sujets. Et bien, c'est la même chose, la question. La question est une sur la vérité. Et les articles s'agencent dedans. Premier article, quid sit veritas. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça, c'est intéressant. Il suffirait de dire ça, j'aurais pu faire ça. Regardez, qu'est-ce que c'est que la vérité, Justin Thomas? Mais voyez, à ce moment-là, j'aurais dû annoncer qu'est-ce que c'est que la vérité chez Saint Thomas. Ça vaudrait la peine. Qu'est-ce que c'est que la vérité chez Saint Thomas? Chez un théologien du Moyen-Âge. Puis on se poserait la question ensuite, est-ce que ce que dit Saint Thomas, ça tient la route? Est-ce que je peux répéter aujourd'hui ce que dit Saint Thomas? Pas le répéter, mais le comprendre et le dire. Ensuite, deuxième article, la vérité est-elle trouvée principalement dans l'intelligence ou dans les réalités? Ça, c'est une grande question philosophique. Aristote, Platon, Heidegger, et puis, on mettrait, je ne sais pas, Martin, si vous voulez, ou Aristote. La vérité est-elle premièrement, principalius, est-elle principalement dans l'intelligence ou dans les choses? Troisième article, la vérité est-elle seulement dans l'intelligence qui compose et qui divise? L'intelligence qui compose et qui divise, c'est l'intelligence qui juge, c'est l'intelligence qui discerne, ce n'est pas l'intelligence qui saisit. Alors est-ce que l'intelligence, la vérité est seulement dans le jugement, dans une intelligence qui compose et qui divise? Ensuite, est-ce qu'il y a une vérité seulement par laquelle toutes les choses sont vraies? Par laquelle toutes sont vraies. Autrement dit, est-ce qu'il y a une vérité dont participent toutes les autres vérités? Article 5. Est-ce qu'il y a une certaine vérité en dehors de la première qui est éternelle? Ça, c'est Saint Augustin. Il n'y a qu'une seule vérité, la vérité éternelle. Puis après, c'est la bouillabaisse. C'est-à-dire l'homme. C'est plus tout. C'est la contingence. Est-ce que la vérité créée est immuable? Est-ce que la vérité créée, donc ce n'est pas la première vérité, est-elle immuable? Article 7e. Est-ce que la vérité Marine Sensu est-elle une certaine... Y a-t-il une certaine chose qui soit fausse, Vincent? Est-ce que l'erreur est dans les sens?
Dans Aristote.